Imaginons une seconde qu'on soit dans un parc d'attractions, dans un wagonnet de montagnes russes. On monte, lentement, le mécanisme cliquette, on arrive tout en haut, le silence total, et là la vue est juste spectaculaire.
Ouais, le paysage magnifique, la lumière dorée, tout semble parfait et hyper sûr, quoi.
C'est ça. Sauf que d'un coup, sans le moindre avertissement, le sol se dérobe. C'est la chute libre totale, d'une violence inouïe, dans le noir complet. L'estomac se soulève, c'est la panique.
Eh ben, ce contraste super vertigineux, ce passage de la sécurité absolue à la terreur, c'est en fait le cœur de la plongée documentaire qu'on fait aujourd'hui.
Exactement. Aujourd'hui, on décortique les notes du docteur John Oswalt sur les chapitres 4 et 5 d'un texte antique hyper célèbre, le livre d'Ésaïe. Et notre mission dans cette exploration en profondeur, c'est de voir comment cette poésie ancienne utilise ces montagnes russes émotionnelles pour, en fait, nous parler de nous, de la nature humaine.
Tout à fait. Et Oswalt met le doigt sur une technique littéraire géniale utilisée ici qu'il appelle l'alternance. En gros, le texte nous malmène délibérément. Il nous jette de l'espoir le plus pur, genre une société restaurée, au jugement le plus cynique d'une civilisation qui s'effondre.
Et c'est pas juste un exercice intellectuel, hein. Le but, c'est de parler de la notion de nouveau départ, de responsabilité morale, et de ce qui se passe quand une société commence à appeler le bien mal et le mal bien.
Ouais, c'est un miroir assez brutal.
Et bon, avant la chute, faut profiter de la vue. Du coup, on commence logiquement par le chapitre 4, la vision d'espoir. Sauf que dès les premières lignes des notes d'Oswald, on tombe sur un débat sémantique autour d'un seul mot, le mot « branche » ou « germe ».
Alors ça, c'est typique de la poésie hébraïque ancienne. Ça repose sur ce qu'on appelle le parallélisme. Au lieu de faire rimer des sons, on fait rimer des idées, tu vois.
Ouais.
La deuxième ligne vient éclairer ou nuancer la première. Et là, le texte dit que la branche de Yahvé sera belle et juste après, en parallèle, que le fruit de la terre fera la fierté des survivants.
Et c'est là que les traducteurs s'arrachent les cheveux.
Bah oui. D'un côté, t'as ceux qui mettent une majuscule à branche, parce que dans d'autres textes, comme Jérémie, ça désigne clairement le Messie, le sauveur cosmique.
Si on suit la règle du parallélisme, la branche doit être le miroir du fruit de la terre. Donc, on parle plus du tout d'un messie divin. On parle d'agriculture, quoi. Juste une terre stérile qui redevient un Éden. C'est quand même deux choses hyper différentes.
Pour nous, oui. Mais dans la pensée de l'époque, la frontière entre le spirituel et le matériel n'existe pas vraiment. La fertilité du sol, c'est la preuve physique d'un règne divin juste.
Ah, donc les deux lectures se superposent, en fait.
Exactement. Sauf que, et c'est là que ça se corse, cette belle restauration, elle n'est pas magique. Elle demande une purification super violente, décrite par le mot hébreu « ruach ».
Alors ce mot « ruach », il est fou, parce qu'il peut vouloir dire « vent » ou « souffle » ou « esprit ». Les notes soulignent qu'il amène un jugement, un feu, mais tu vois, selon comment on le traduit, l'image change du tout au tout.
Ah, c'est sûr.
Si je dis un souffle de jugement, on imagine un truc un peu clinique, genre un tribunal de l'esprit. Mais si on traduit par une tempête de feu, c'est carrément l'apocalypse. C'est presque frustrant cette ambiguïté pour quelqu'un qui cherche une réponse claire.
C'est vrai, mais en fait l'analogie parfaite que soulèvent ces notes, c'est celle de l'incendie de forêt.
L'incendie de forêt?
Ouais, tu sais ces méga-feux qui font très peur, mais qui sont écologiquement vitaux. Sans cette chaleur extrême pour faire éclater certaines graines, et sans les cendres pour nourrir le sol, la forêt étouffe sous ses propres broussailles et meurt.
Ouais, il faut que ça brûle pour que ça repousse. C'est radical.
Et c'est la théologie du texte. L'espoir, c'est pas d'éviter le feu. L'espoir, c'est qu'il y aura des survivants capables de germer à nouveau. Et ça, ça nous amène à leur vision de l'histoire.
Ah oui, l'histoire comme une hélice. Quand j'ai lu ça, j'avoue que ça m'a fait buguer. Pourquoi une hélice ?
Pense au cycle qu'on trouve dans le livre des juges. Une nation est bénie, elle est en paix, le confort s'installe, du coup les gens oublient Dieu, glissent vers l'idolâtrie et la corruption.
Le classique, quoi.
Voilà. Ensuite, oppression par un ennemi. La nation crie au secours, un libérateur arrive, et hop, retour à la paix. La boucle est bouclée.
Un cercle parfait, en somme ?
Sauf que non. C'est pas un simple cercle. C'est une hélice qui descend. À chaque fois que le cycle recommence, la ligne de base morale a baissé d'un cran.
Ah, la corruption s'enracine de plus en plus profondément.
C'est ça, c'est une spirale descendante. Et c'est pour ça que l'exil ou le fameux incendie de forêt est inévitable. C'est le seul moyen de briser l'hélice. C'est un nouveau départ, une chance pour un nouvel exode.
Mais attends, il y a un truc qui me chiffonne. Si l'incendie nettoie tout, qu'est-ce qui empêche l'hélice de redescendre direct après Jargue ?
Et c'est là qu'intervient le concept de sainteté. Et Oswald insiste bien là-dessus, notre vision moderne du mot saint, elle est complètement fausse.
Comment ça ?
À l'époque, dans les cultures païennes, être saint, ça voulait juste dire être mis à part, être différent de l'humain. T'avais des dieux saints qui étaient sanguinaires, qui demandaient des sacrifices humains, et c'était ok, ils étaient saints parce qu'ils étaient des dieux.
Donc zéro connotation morale, c'était juste un statut.
Exactement. Et Ésaïe arrive et retourne complètement le concept. Être saint, ça devient être transformé pour partager le caractère juste et moral du divin.
C'est plus juste mettre un habit religieux, c'est changer de l'intérieur.
Voilà. Et une fois que cette purification morale est faite, alors, et seulement alors, l'abri spirituel apparaît. La fameuse Shekhinah.
La nuée de jour et le feu de nuit, c'est ça, la Shekhinah.
Oui, ça vient d'une racine qui veut dire dresser sa tente. Dieu vient camper avec eux pour les protéger. Mais attention, cette protection n'intervient qu'après la purification par le feu.
Et c'est là que le docteur Oswald partage des anecdotes hyper personnelles dans ses notes. Et franchement, ça m'a fait tiquer.
Les histoires de voitures.
Ouais. Il raconte que quand il était jeune, il roulait comme un fou furieux sur une route plein de trous. Il y avait genre 57 nids de poules, dit-il. Il arrive en haut d'une colline, la voiture décolle carrément et atterrit par miracle sans exploser.
Complètement inconscient.
C'est clair. Et plus tard, il parle d'une Buick flambant neuve. Il essaye de doubler. Un animal traverse. Il perd le contrôle et fait plein de tonneaux. La bagnole est broyée, mais lui et son passager s'en sortent sans une égratignure.
Et il y a le flic qui arrive.
Ah oui, le policier regarde la carcasse de la voiture et dit à Oswald, qui parlait de la grâce de Dieu, un truc du genre, « Bah, s'il y a un Dieu, il était certainement pas assis sur la banquette arrière. »
Le cynisme absolu mais compréhensible vu l'état de la tôle.
Sauf que Oswald conclut en disant qu'au lieu de demander pourquoi Dieu permet les tragédies, face à toutes ces fois où on est protégé à une seconde près, on devrait demander pourquoi pas.
C'est une réflexion super forte.
Oui, mais moi je veux faire un peu de pushback là-dessus. C'est hyper contradictoire avec ce qu'on vient de dire là.
Comment ça ?
On vient d'établir que la Shekhinah, la vraie protection divine, exige une purification par le feu et une sainteté morale stricte. Et là, on a un ado qui conduit comme un danger public absolu, qui risque la vie des autres, et il bénéficie d'une protection miraculeuse. C'est pas logique.
Ah, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, la théologie fait une grande distinction ici. Oswald utilise ça pour parler de la grâce commune.
La grâce commune ?
Ouais, c'est cette protection physique, imméritée, qui empêche juste le monde de s'autodétruire tous les jours. C'est pas conditionné par la moralité. Mais la promesse d'Ésaïe, la Shekhinah, c'est pas juste survivre à un accident de voiture. C'est un abri spirituel profond, une transformation intime. Et ça, tu l'obtiens pas si tu refuses d'abandonner tes propres comportements destructeurs.
Ok, je comprends la nuance. Ce qui nous amène tout droit au chapitre 5. Parce que si la vision future est si belle, pourquoi on a besoin de ce feu dévastateur en premier lieu ?
Et là, on entre dans ce qu'on appelle le champ de la vigne. Et rhétoriquement parlant, c'est un chef-d'œuvre. Le prophète s'identifie totalement au cœur brisé du propriétaire de la vigne.
Et les détails agricoles sont d'un réalisme dingue. Il faut savoir qu'en Judée, la terre, c'est basiquement un tas de cailloux. C'est pas du tout facile à cultiver.
C'est clair. Oswald explique que le propriétaire passe un an juste à déblayer les pierres à la main. Ensuite, il utilise ces mêmes pierres pour construire des murs. Il bâtit une tour de garde énorme. Il creuse un pressoir à même la roche.
Un boulot de titan. Et il plante pas n'importe quoi. Il plante des vignes de qualité supérieure.
Oui, et il attend 3 ans. Et le résultat ? Foup ! C'est le choc. Au lieu de beaux raisins, il récolte des raisins sauvages, tout petits, acides et amers. Ça n'a aucun sens d'un point de vue agricole.
Et c'est là que le piège se referme. Le prophète se tourne vers le public, des agriculteurs qui savent exactement la sueur que ça représente, et il leur demande de juger la situation.
Et eux, évidemment, ils sont outrés.
Mais oui, j'imagine trop la scène. C'est comme une pièce de théâtre immersif ou un thriller psychologique. Le public crie qu'il faut arracher cette vigne inutile, la piétiner. Et bam, la lumière s'allume. Le prophète les pointe du doigt et dit « Cette vigne, c'est vous ».
C'est exactement la technique du prophète Nathan avec le roi David quand il lui raconte l'histoire du riche qui vole la brebis du pauvre. David s'énerve, condamne le gars et Nathan lui lance « Cet homme, c'est toi ». La psychologie inversée dans toute sa splendeur.
C'est brillant et dévastateur. Et le texte utilise un jeu de mots en hébreu pour enfoncer le clou non.
Ah oui, c'est magistral. Le propriétaire cherchait la justice, le mishpat, et il trouve l'effusion de sang, le mishpar. Il cherchait la droiture, la tzedaka, et il entend un cri d'effroi, une zaka.
Mishpat, mishpar. Tzedaka, Zaka. Les mots se ressemblent tellement à l'oreille, mais le sens est à l'opposé total. C'est l'hypocrisie parfaite.
Exactement. L'apparence est belle, mais le cœur est pourri.
Mais alors, concrètement, c'est quoi ces raisins amers? Qu'est-ce qui justifie de brûler la vigne? Le chapitre enchaîne sur six malheurs, c'est bien ça?
Oui. Et il faut préciser que quand le prophète dit « malheur », c'est pas lui qui se frotte les mains en mode vengeance. C'est un cri de chagrin, genre « hélas, regardez ce que vous vous faites ».
Le diagnostic est glaçant. C'est quoi le premier?
L'avidité, la convoitise immobilière, ceux qui achètent maison sur maison, champ sur champ, jusqu'à se retrouver tout seul au milieu du pays. L'idolâtrie du matériel, quoi.
Et ensuite, t'as l'indulgence personnelle, les fêtes sans fin, dès le matin. Mais celui qui me frappe le plus, c'est le troisième. La moquerie envers Dieu. Le texte dit qu'ils tirent le péché avec des cordes de charrette.
Ouais, ils promènent leur corruption comme un trophée. Et ils mettent Dieu au défi d'agir. C'est l'arrogance suprême.
Et c'est là que les notes d'Oswald placent l'histoire de Robert Hunselgort, non?
Tout à fait. Hunselgort, c'était un intellectuel athée très connu. Il montait sur scène, sortait sa montre et défiait Dieu de le frapper de mort dans la minute pour prouver son existence.
Évidemment, 60 secondes passaient et rien.
Voilà. Et il triomphait. Sauf que, raconte Oswald, quand la sœur d'Ingersoll est morte, face à la tombe, ce grand orateur n'avait plus rien à dire. Il a juste parlé de l'obscurité terrifiante. C'est le cynisme qui se brise face à la réalité tragique.
Et on arrive au quatrième malheur, le point de non-retour, le renversement moral. Quand la société commence à appeler le mal bien et le bien mal, la lumière devient obscurité.
Et les deux derniers malheurs visent les dirigeants. Des héros, mais des héros de la boisson, qui acquittent les coupables contre des pots de vin et bafouent les droits des innocents.
Franchement, quand j'entends cette liste de symptômes, l'avidité, la corruption, l'inversion des valeurs, ça semble terrifiant de modernité. Ça pousse vraiment à se demander, est-ce que cette descente en vrille est inévitable pour toute civilisation prospère? Est-ce que le confort matériel finit toujours par produire des raisins amers?
Ça nous ramène directement au cycle de l'hélice de tout à l'heure. C'est exactement la mécanique décrite. Le succès engendre l'arrogance.
Et c'est là que le couperet tombe, avec le fameux « par conséquent ».
Le cause à effet. À cause de ce refus total de la connaissance de Dieu, l'exil est inévitable. La sainteté de Dieu ne peut pas ignorer la pourriture. Elle va se manifester par sa justice implacable.
Et cette justice, elle prend pas la forme d'un concept abstrait, elle prend la forme d'une machine de guerre terrifiante. L'Assyrie.
L'Empire assyrien, oui. Sous l'empereur Téglath-Philassar III, au 8e siècle avant notre ère, après des décennies de silence, peut-être d'ailleurs à cause du passage de Jonas à Ninive, l'Empire se réveille.
Et l'image est saisissante, le texte dit que Dieu siffle l'ennemi depuis le bout de la terre. Comment sifflerait un chien d'attaque?
Et ils arrivent. Le texte les décrit comme inarrêtables. Leurs flèches sont aiguisées, les sabots de leurs chevaux sont comme du silex, et les roues de leurs chars sont comme un ouragan. Ils rugissent comme la mer déchaînée.
Une vraie machine broyeuse. Et le résultat? Pour ceux qui ont cru pouvoir créer leur propre lumière et définir le bien et le mal, c'est l'obscurité totale.
Les ténèbres, c'est la fin du chapitre 5 et c'est glaçant.
Bon, pour résumer un peu cet arc narratif vertigineux, on commence avec une promesse de beauté incroyable, un abri sûr. Mais pour y arriver, il faut affronter honnêtement notre propre corruption présente, les fameux raisins amers. L'incendie est nécessaire.
Ouais, mais il faut pas oublier que le but ultime, c'est pas la destruction. Le feu, la Syrie, c'est pour éradiquer les raisins sauvages. Mais la finalité, c'est que nos survivants purifiés deviennent eux-mêmes un abri, un reflet de la justice pour les autres.
Un vrai nouveau départ, ancré dans l'intégrité morale. Et ça amène une réflexion qu'on voulait partager pour clore cette analyse.
Ouais, une question ouverte.
Exactement. Pour ceux qui nous écoutent, quand on y pense aujourd'hui, dans notre culture de l'info instantanée, du succès matériel à tout prix, quelles sont les réussites modernes qu'on célèbre avec fierté, mais qui, sur le long terme, pourraient bien n'être que des grappes de raisins sauvages et amers?
C'est une vraie bonne question pour prendre du recul, quoi.
Absolument. Et sur ce, ça marque la fin de cette plongée documentaire au cœur des textes d'Ésaïe et des notes du Dr Oswald.